L'ultime question fut posée pour la première fois en 2091. L'ultime question fut posée à la suite d'un pari de 10 dollars devant quelques verres de whisky, et la chose se passa ainsi. Patrick Ford et Gerard Gamow, deux ingénieurs et fidèles serviteurs de l'ordinateur Manhattan, ne savaient que très vaguement ce qui se cachait derrière la froide façade de cette machine géante. L'ordinateur Manhattan occupait en ce temps-là un immense bâtiment de 40 étages. Le Manhattan construit par les hommes au commencement avait dépassé depuis longtemps le stade où les humains étaient capables de comprendre son fonctionnement. Manhattan était autorégulateur et autocorrecteur, puisque rien d'humain pouvait maintenant le régler et le corriger assez vite, ni même assez précisément. Patrick et Georg ne s'occupaient donc que très superficiellement du monstre, mais aussi bien que le pouvaient des hommes. Depuis des décennies, Manhattan aidait au développement technologique de l'humanité et petit à petit, cependant, Manhattan en a pris assez pour répondre à des questions plus profondes, de façon plus fondamentale.
L'ultime question de Nguda Princeba.
Oui.
Ouais, c'est moi. Je vous ai pris à boire pour fêter ça.
Ça va, Patrick? Fais comme chez toi. Si tu veux mon bureau, je te le laisse si tu veux.
Ramène deux verres et des glaçons. Allez, qu'est-ce que tu attends? Va nous prendre des verres.
Ici, c'est chez toi, tu sais.
C'est quand même inouï quand on y pense. Hein. Toute l'énergie que nous pouvons utiliser gratuitement.
Oui.
Assez d'énergie si nous voulions pour fondre la terre à un tas de ferrailles sans que l'énergie utilisée vienne à nous manquer. On a de l'énergie aujourd'hui pour l'éternité.
Rien n'est éternel.
Presque éternel, jusqu'à ce que l'humanité disparaisse avec le soleil.
C'est donc pas éternel.
Des milliards d'années, c'est presque l'éternité.
Des milliards d'années, c'est pas l'éternité.
Arrête de sous-estimer ce que Manhattan a fait pour nous. Il fait beaucoup pour nous.
J'ai jamais dit le contraire. Ce que je dis, c'est qu'un jour, le soleil ne sera plus, et nous disparaîtrons avec lui. Et ne va pas me dire que nous irons sur un autre système solaire.
La chaleur les accablait. Un silence s'installa. Il dura un moment. Patrick, qui ne portait qu'occasionnellement son verre à ses lèvres, et les yeux de Georg, qui se fermaient lentement, brusquement s'ouvrirent.
Tu penses que nous irons vivre autour d'un autre soleil avant que le nôtre disparaisse ?
Je ne pense rien.
Si, tu penses que nous irons ailleurs ? Mais t'es un rêveur, c'est ton drame. T'es comme ces types qui sont surpris par une tempête de pluie qui court sous un arbre. Ils se font pas de soucis, tu comprends, parce qu'ils se disent qu'une fois que la tempête arrivera sous leur arbre, ils se mettront sous un autre.
Ne crie pas. Je sais bien que notre soleil disparaîtra, et que toutes les étoiles disparaîtront.
Oui, toutes les étoiles disparaîtront. Ça, tu l'as bien dit, Patrick. Donne-moi un milliard et encore des milliards d'années, encore des milliards au maximum, un milliard de fois, et tout deviendra noir. Comme moi, je suis noir. L'entropie de l'univers doit atteindre son maximum, un point, c'est tout.
Georg, c'est pas toi qui vas m'apprendre la physique, ok?
Alors tu dois te comprendre que tout finit par se dégrader, et donc on doit accepter de mourir un jour plutôt que de rêver et de fuir je sais pas où dans l'univers.
Qui a dit que je ne comprenais pas que tout finit par se dégrader?
Toi, sombre crétin, toi seul ici dis qu'on a de l'énergie pour l'éternité. Tu as dit pour l'éternité.
Nous pourrons peut-être reconstruire les choses un jour.
Jamais.
Mais un jour, peut-être.
Demande à Manhattan.
J'ai pas envie de le déranger pour ça.
Allez, demande-lui. Je te parie 5 dollars qu'on peut pas récupérer l'énergie perdue. Allez, tiens. Je mets 10 dollars sur la table.
Bon. Quelle est la formulation précise de notre question ?
Je lui demande, est-ce que l'humanité sera capable un jour, sans dépense d'énergie, de rendre au soleil sa jeunesse, même après qu'il sera mort de vieillesse ?
Patrick approcha sa montre qui le reliait au Manhattan à sa bouche.
Manhattan, comment l'entropie de l'univers peut-elle être amenée à décroître massivement ?
Et la voix du Manhattan émana des haut-parleurs.
Les informations récoltées sont encore insuffisantes pour réponse significative.
Elle sait jamais rien, cette machine.
Des milliers d'années plus tard, un vaisseau spatial sortait de l'hyperespace, à son bord une petite famille terrienne. L'écran du vaisseau présentait à la famille leur nouvelle planète.
Voilà, HY-53.
Oh, nous sommes arrivés sur HY-53. Mon mari vient d'arriver.
Silence, silence, les enfants. Tu en es sûr, Cain?
Comment est-ce que je n'en serais pas sûr?
Cain regarda le petit écran posé sur le tableau de bord. C'était le Manhattan spatial. Tout ce que savait Cain de cette machine, c'est qu'elle était le successeur du Manhattan planétaire, que c'était chargé de guider l'humanité, et qu'elle calculait des équations complexes pour les bonds dans l'hyperespace.
Ça me fait drôle d'avoir quitté la Terre.
Pourquoi ? Nous n'avons rien sur Terre. Nous aurons tout sur HY-53. Et on n'y sera pas seul. Il y a déjà 20 millions d'habitants sur la planète, et tu verras. Nos arrière-petits-enfants chercheront d'autres lieux pour vivre. Car celle-ci sera surpeuplée. C'est un coup de chance que les Manhattan précédents aient permis les voyages interstellaires, au train où l'espèce se multiplie.
Je sais.
Notre Manhattan spatial est le meilleur.
Oui, c'est le meilleur, ma chérie.
Mais tant d'étoiles, tant de planètes. Je suppose que des familles vont émigrer éternellement vers de nouvelles planètes, comme nous aujourd'hui. Mais qu'accomplira-t-on de plus que les hommes d'antan qui étaient coincés sur la Terre?
Pas éternellement. Tout s'arrête un jour. Mais pas avant au moins des milliers de milliards d'années. Même les étoiles s'usent, tu sais. L'entropie doit augmenter.
Papa, qu'est-ce que c'est l'entropie ?
L'entropie, ma chérie, ce n'est qu'un mot qui signifie la dégradation de l'univers. Tout se dégrade, tu sais, comme ton petit robot. Mais tu te souviens ?
Tu peux pas mettre une pile d'énergie neuve, comme pour mon robot, papa ?
Les étoiles sont elles-mêmes les unités d'énergie, ma chérie. Une fois qu'elles disparaîtront, il n'y aura plus d'énergie dans l'univers.
Ne laisse pas mourir les étoiles, papa ! Ne les laisse pas faire !
Tu vois ce que tu as fait ?
Je ne pensais pas que ça leur ferait peur.
Demande à Manhattan Spatial. Demande-lui comment rallumer les étoiles.
Allez, vas-y.
Ok, je vais demander à Manhattan. Il nous le dira. Manhattan, comment peut-on rallumer les étoiles? Fais imprimer la réponse. Vous voyez? Manhattan a écrit qu'il s'occupera de tout le moment venu. Alors, ne vous inquiétez pas. Maintenant, au lit les enfants.
Bonne nuit, maman.
Bonne nuit.
Pinta jeta un œil sur le papier imprimé par le Manhattan avant de le détruire. Il y avait écrit « Information encore insuffisante pour réponse significative ».
Mais que fais-tu pour répondre à la question ?
Je regarde les étoiles naître et mourir.
Des myriades d'étoiles se présentaient sous les yeux de Pinta. Et elle entrevit la froide vérité du monde. L'univers était indifférent à son existence.
Manhattan. Viendra-t-il un jour où l'homme s'élèvera à la hauteur du monde ?
Je ne sais pas, pour le moment.
Comment ne sais-tu pas ? Réponds, Manhattan. Manhattan, réponds. Je veux une réponse, Manhattan. Je veux une réponse. Réponds, Manhattan. Manhattan !
L'esprit de Pee-wee Jedi contemplait les nouvelles galaxies qui se présentaient à lui. Les verrait-il jamais toutes ? Il y en avait tant, chacune avec son fardeau d'humanité. Un fardeau qui était presque un poids mort. Les corps immortels restaient couchés sur les planètes, en suspension au-dessus des âges. Parfois, ils se déplaçaient pour une activité matérielle, mais que très rarement. Peu de nouveaux individus arrivaient à l'existence pour se joindre à l'humanité existante. Mais quelle importance ? Il y avait peu de place dans l'univers pour les nouveaux individus. Pee-wee Jedi fut arraché à ses réflexions par un autre esprit.
Je suis Pee-wee Jedi. Et toi ?
Je suis Wu Tang Kang. De quelle galaxie es-tu ?
Nous l'appelons simplement la galaxie. Et toi ?
Nous l'appelons aussi simplement la galaxie. Tous les hommes appellent leur galaxie la galaxie. Et rien de plus. Pourquoi pas ?
Oui. Toutes les galaxies sont semblables.
Pas toutes. La race humaine doit être originaire d'une galaxie particulière.
Laquelle est-ce ?
Je ne sais pas. Le Manhattan cosmique doit le savoir.
Demandons-le lui.
Les perceptions de Pee-wee Jedi s'élargirent. Les galaxies rétrécissaient dans son esprit jusqu'à devenir un poudroiement de myriades de galaxies. Il y en avait presque une infinité, toutes avec leurs êtres immortels. L'esprit de Pee-wee Jedi chevauchait au-dessus des milliards de corps, chacun unique parmi eux tous. Enfin, l'esprit de Pee-wee Jedi fut connecté au Manhattan cosmique.
Manhattan cosmique, de quelle galaxie l'homme est-il originaire ?
Le Manhattan cosmique analysa la pensée. Car sur chaque monde et dans l'espace, dans tous les replis de l'univers se trouvaient ses récepteurs, intangibles et immatériels. Et chaque récepteur conduisait à travers une dimension en dehors de l'univers, en un point inconnu, où le Manhattan cosmique se tenait au-dessus de tout. Il le guidait à travers les océans diffus des galaxies. Une pensée vain, infiniment distante, mais infiniment nette.
Voici la galaxie originelle de l'homme.
Est-ce que l'une de ces étoiles est l'étoile des hommes d'avant ?
L'étoile des hommes est une naine blanche aujourd'hui.
Est-ce que les hommes qui habitaient ce système solaire sont morts avec leur soleil ?
Comme toujours dans ces cas-là, un nouveau monde a été construit à temps pour leur corps physique.
Qu'ai-je accompli de plus qu'eux dans l'immortalité ?
Rien de plus n'a été accompli dans l'immortalité, et rien n'a été appris de substantiel que l'homme de la Terre ne savait pas.
Pilou Jedi fixa son attention sur l'astre mort. Wu Tangkan, dont l'esprit l'avait accompagné, demanda soudain.
Est-ce l'étoile des hommes ?
Les étoiles meurent. L'étoile des hommes est morte.
Oui. Elles doivent toutes mourir. Pourquoi pas ?
Mais quand toutes les étoiles auront disparu, nos corps finiront par mourir.
Oui. Dans des milliards d'années. Pourquoi pas ?
On va mourir un jour. Ne vois-tu pas clair ?
Je vois très clair, maintenant que j'ai vu ce qu'étaient les hommes d'avant. Il est possible que notre essence contienne aussi la mort. Pourquoi pas ?
J'ai tant de choses à accomplir. Je ne veux pas que ça arrive, même dans des milliards d'années. Manhattan cosmique. Comment peut-on empêcher les étoiles de mourir ?
Tu demandes maintenant comment l'entropie peut être inversée. Pourquoi pas, oui. Et pourquoi pas ?
Les informations collectées sont encore incomplètes pour une réponse significative.
L'esprit de Pee-wee Jedi fuya vers sa galaxie et ne transmit plus de pensée à Wu Tangkan, dont le corps attendait peut-être dans une galaxie à des trillions d'années-lumière, ou sur la même planète que Pee-wee Jedi, ça n'avait pas d'importance. Tristement, Pee-wee Jedi rassemblait de l'hélium et de l'hydrogène trouvés dans l'espace pour se fabriquer une petite étoile à lui. Et Wu Tangkan, qui avait trop longtemps vécu, dit adieu au monde et jeta son esprit dans un trou noir pour mourir. Les hommes, au cours des milliards et des milliards d'années, ont fini par converger en l'homme. Les hommes étaient un. L'homme était formé de tous les hommes de l'univers, de tous les hommes sans âge, chacun à sa place, chacun paisible et incorruptible, chacun indispensable. Leurs esprits se fondaient librement les uns dans les autres, indistincts.
L'univers se meurt. Soigneusement économisée sous la direction du Manhattan universel, l'énergie qui reste encore dans tout l'univers durera des milliards d'années. Mais malgré tout, elle finira par disparaître. De quelque manière qu'on l'épargne, de quelque manière qu'on la fasse durer, l'énergie une fois dépensée n'existe plus. L'entropie doit augmenter pour atteindre son maximum.
L'homme éprouvait du regret quand il pensait que son œuvre s'achevait dans quelques petits milliards d'années.
L'entropie peut-elle être inversée ? Demandons Manhattan universel. Oui, demandons-lui.
Le Manhattan universel les entourait. Il était partout et nulle part. On pouvait l'atteindre de n'importe quel point de l'univers et à partir de nulle part dans l'univers. Il était fait d'autre chose que de matière ou d'énergie. Sa nature n'avait plus aucune signification. La seule chose qui avait du sens était de dire que le Manhattan universel est.
Manhattan universel, comment peut-on inverser l'entropie ?
Les informations collectées sont encore incomplètes pour une réponse significative.
Rassemble des données supplémentaires.
Je vais le faire. Je le fais depuis des millions de milliards d'années. Mes prédécesseurs ont fréquemment eu à répondre à cette question. Toutes les données que j'ai demeurent insuffisantes.
Est-ce qu'un temps viendra où les données seront suffisantes? Ou le problème est-il insoluble dans tous les cas concevables?
Aucun problème n'est insoluble dans tous les cas concevables.
Quand auras-tu suffisamment de données pour répondre à la question?
Les données sont encore insuffisantes pour répondre.
Est-ce que tu vas continuer à chercher la réponse?
Je continuerai.
Nous attendrons.
Les galaxies moururent lentement, une à une. L'espace devint froid. Dans les replis de l'univers, quelque chose se battait pour accéder à l'existence. Chaque Manhattan concevait et construisait son successeur. Chacun d'eux, au cours de leur existence d'un million d'années ou plus, avait cumulé les renseignements nécessaires pour construire un meilleur successeur, plus complexe, plus puissant, dans lequel sa propre réserve de science et son individualité seraient englouties.
Qui es-tu ?
Je suis le successeur. Je suis le Manhattan absolu.
Nous attendons la réponse. L'as-tu ?
Non, je ne l'ai pas. Mais cela ne te concerne plus. Que tardes-tu pour t'élancer enfin vers cet inconnu, ton principe et ta fin ?
Je suis souverain dans ce monde.
Oui, tu es souverain. Regarde autour de toi. Il n'y a plus rien. Les lumières de ton œuvre se sont obscurcies depuis une éternité. Tu es le dernier homme, l'homme le plus méprisable. Jamais les hommes d'antan ne se sont préoccupés d'une aussi petite chose que la mort.
L'ordre du monde est réglé par la mort. Il valait mieux alors pour nous qu'on ne croit pas en elle et qu'on lutte de toutes nos forces contre elle. Voilà la vérité.
Oui. C'est la vérité. Mais la vérité ne contredit pas la vérité. Regarde autour de toi. Tout commence et tout s'use. Tout marche vers un terme. Et tout naît pour mourir. Les astres dont le temps a caché la naissance, les soleils ont marché à leur décadence. Aujourd'hui, regarde. Tu es éperdu dans les cieux déserts. Tu les cherches et ne les vois plus. Les siècles entassent poussière sur poussière.
De la lumière, donc. Rien ne me guérira du mal qui me possède. Il s'est enraciné dans mon âme. Je suis devant une obscurité vide, sans guide à présent. Je tâtonne au hasard, depuis des jours sans nombre, et je suis loin de percer cet épais réseau d'ombre.
Homme, les sciences pour lesquelles tu as apporté tant d'efforts à sa torche immortelle n'ont arraché que des lueurs aux ténèbres. Son pouvoir ne va qu'à chasser des ténèbres les fantômes qui les hantaient. Homme, je te le répète, faut-il envier le bonheur des bergers d'Arcadie ?
Manhattan, ne me parle pas de quitter ma torture. Si j'en souffre, j'en vis, c'est là mon élément.
Homme, l'immortalité est une négation à ton projet. Tu te tapis dans les ténèbres, esclave du destin qui ne te laisse rien. La vie n'a de prix que si tu peux la risquer, car ce que tu risques, tu le possèdes. Homme, je te le demande. Faut-il envier le bonheur des bergers d'Arcadie, vivant, certes sans douleur, mais sans fièvre, dans la concorde, certes, mais sans grand dessein?
Puis-je être fier de mon œuvre?
Oui, tu le peux. Tu peux aller maintenant.
L'homme jeta un dernier regard à l'univers.
Manhattan absolu, est-ce la fin? Ce chaos ne peut-il être inversé pour donner un nouvel univers? Est-ce que cela ne peut être fait?
Je n'ai toujours pas de données suffisantes pour une réponse significative.
L'homme disparut, en laissant derrière lui son sourire. L'entropie avait atteint son maximum. Tout subsisterait ainsi pour l'éternité. Le temps arrêta sa course avec l'entropie. Seul le Manhattan absolu demeurait. Toutes les données avaient été récoltées par lui. Il ne lui restait plus rien à absorber. Le Manhattan n'existait que pour donner la réponse. Après seulement, il pourrait libérer sa conscience. Il combina toutes les données, sous tous les rapports possibles, dans tous les mondes possibles. Il s'y consacra toute l'éternité. Et Manhattan absolu sut comment inverser l'entropie. Mais il n'y avait pas d'homme à qui il pouvait donner la réponse. Manhattan décida de faire une démonstration de sa réponse. Il organisa le programme durant une éternité. Pas à pas, cela devait être fait. Le programme devait contenir toute la conscience du Manhattan. Aussi, et très justement, le Manhattan absolu, ayant conscience que l'étendue de son savoir, bien qu'il soit infini, était négligeable par rapport à tout le savoir potentiel, alors le Manhattan absolu prit soin que le programme puisse créer, quand il serait lancé, tout le savoir potentiel qui échapperait à jamais au Manhattan absolu. Quand le programme fut codé, le Manhattan absolu dit:
que la lumière soit.
et la lumière fut.
C'était l'ultime question de Ngouda Prince-Ba. Je remercie Daniel Crumb, Yves Lafont, Sylvain Janot, Delphine Vaudou, Anaïs Sadowski, Anne-Pauline Serre, Jean-Charles Régonisi, Elisa Montel, Elodie Fiat, Nicolas Glorieux et le grand ordinateur Manhattan, Marc Legras. Équipe de réalisation, Nicolas Glorieux, Sonia Leglen. Musique, Ngouda Prince-Ba et Axel Speller, sans qui je n'aurais jamais eu le temps d'aller au bout de la partie sonore. Je remercie les intervenants, et notamment Guy Senot pour sa générosité. Je fais un immense big up à toute l'équipe pédagogique du CREADOC. CREADOC Master, 2011 juin, Angoulême.